Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Alors, Antiquissimo, aujourd'hui, se déplace jusqu'en Belgique. Et nous allons rencontrer notre invité, Michel Éloi. Bonjour, Michel.
Bonjour, Martine.
Alors, Michel, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler d'un article volumineux que vous avez écrit et qui paraîtra incessamment sous peu dans une revue dont je parlerai tout à l'heure. Donc, cet article étant dédié à Alix, notre héros presque préféré. Avant cela, donc, j'aimerais que nous fassions connaissance avec vous, Michel. Vous qui êtes un péplonophile, je crois qu'on peut dire ça comme ça, même si j'invente à l'instant ce mot, n'est-ce pas? Vous êtes un péplonophile?
Oui, bien sûr, je suis aussi un bénéphile. Mais par contre, un péplonophile, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, nous avons ensuite, en effet, un nom assez bizarre à entreprendre. Et ce nom désigne un article que l'on fait soit sur papier, soit numériquement, sur quelque chose de manière un petit peu informelle. Et pendant très longtemps, parce que vous allez nous dire depuis combien de temps vous vous intéressez à l'Antiquité, cher Michel, pendant très très longtemps, vous avez comme ça publié, pour le plaisir, j'allais dire, des articles, des études que votre passion vous menait à conduire. Et puis un jour, vous avez sauté le pas de créer un site. On va en parler d'ici quelques temps. Mais d'abord, j'aimerais savoir d'où vous vient votre goût pour l'Antiquité.
Mais comme Obélix, je suis tombé dans le chaudron magique étant petit. En l'occurrence, j'avais été voir un film, Les Travaux d'Hercule. Et ça m'a vraiment épaté. Moi, je ne voyais que des westerns à cette époque-là. Et je lisais Bob Moran, c'était mes deux passions. Mais quand j'ai vu Les Travaux d'Hercule, là, j'ai vraiment été scié. D'abord, il y avait la mer. Et j'aime beaucoup la mer. Ce monde était quelque part connu parce que je collectionnais des coquillages et ma documentation m'avait familiarisé avec les noms de Neptune, de la Méduse, des Tritons, etc. Et après avoir vu ce film, le lundi suivant, c'était un samedi, le lundi suivant, j'étais chez une bouquiniste de mon quartier et j'en ressortais avec les contes et légendes mythologiques d'Émile Jeunesse, publié chez Nathan. Voilà.
Et ça a été le grand début. Alors, je vous interromps deux secondes parce que j'ai dit que nous vous parlions depuis votre Belgique natale. Mais où en Belgique exactement?
À l'époque, j'habitais à Bruxelles.
D'accord. Et là, vous êtes?
Maintenant, je suis à Charleroi.
D'accord.
Donc, c'est parce que... Je suis natale et je suis revenu pour toutes sortes de raisons. Entre autres, parce que j'avais pris une pension, donc plus rien ne me retenait à Bruxelles.
Très bien. Donc, il y a eu ce coup de foudre. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez découvert l'Antiquité, découvert donc, le cinéma, la BD. Et qu'est-ce qui s'est passé?
C'était pas tellement la BD à l'époque. Hein.
Oui.
Mais à l'époque, donc, j'ai voulu approfondir. Vous savez, il y avait Pan Marie, il y avait l'avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Ça me rappelait les Argonautes. Ça faisait un clic bizarre dans ma tête. Et donc, entre 11 et 20 ans, on va dire, je me suis voué aux Argonautes et à la Toison d'Or. Et aussi la généalogie de la mythologie. Je composais des tableaux interminables, je dissertais sur le catalogue des 50 héros des Argonautes, le Escalade Noce à Sisyphe, la liste des compétiteurs de Pélias. Vous savez, j'en ai tout un carton rempli hein, de ces manuscrits-là. Et puis, je me suis un peu désintéressé de la chose, pas longtemps. Moi, j'étais toujours fourré à l'Albertine et à la Bibliothèque Royale hein, de Bruxelles.
Mmh.
Et les libraires du quartier, ils vendaient des choses aussi très intéressantes, les librairies Ancaire, les galeries Mortier, tout ça. Et donc, je consultais à la Royale, Diodore de Sicile, Apollonius de Rhodes, Apollodore et toute la clique. C'était une passion, c'était la Grèce. Je voyais aussi des peplums romains, hein,
oui.
Mais ça m'intéressait moins, quoi. Bon, disons que c'était un peu la même sauce, mais c'était la Grèce qui m'intéressait. Et puis, un beau jour, j'ai lu, quelque part, que les Juifs qui s'appelaient Yeshua et qui se voulaient helléniser leur nom, prenaient le nom de Jason des Argonautes. Donc, je me suis un peu intéressé au monde de la Bible. On en parlait vaguement dans les films que je voyais. Et je me suis intéressé à Rome, surtout aux persécutions, parce que les persécutions, c'était un choc entre le monde païen et le monde monothéiste. Et voilà.
Oui, donc
c'était une curiosité. Hein.
C'était le croisement de tout ça, les origines du christianisme,
oui.
La culture grecque, et
oui.
Puis ce cinéma, ce péplum qui a commencé à vous prendre.
Oui, tout à fait. Et j'ai découvert par hasard dans Bruxelles un cinéma qui avait repris les travaux d'Hercule. J'ai été revoir le film et là j'étais vraiment scotché. Où il y a eu Jason les Argonautes.
Quand on en a parlé, vous m'avez dit que ça, vous aviez 20 ans à peu près, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, oui. J'avais 20 ans. Et j'ai découvert des boutiques qui vendaient des documents de cinéma, des affiches, des photos. J'assiégeais les distributeurs de ces films à Rue Royale. Et j'essayais de collectionner. Et puis, on y trouvait aussi chez eux des fanzines, toutes sortes de fanzines. Et j'ai créé le mien, qui s'appelait Péplum, tout simplement.
Oui, ça vous a tenu, puisque des années après, vous allez créer un site qui s'appellera aussi Péplum. Donc,
oui.
C'était les débuts pour vous d'Internet. Et donc, du coup...
C'était les débuts d'Internet, c'est-à-dire qu'une de mes vendeuses, qui me vendait donc des photos, avait aussi un site. Alors, j'ai collaboré à son site, j'ai publié 2-3 articles, et puis elle est décédée. Mais j'avais découvert entre-temps qu'un de mes voisins, qui habitait quelques rues plus loin, avait aussi un site dédié aux empereurs romains. Alors, bon, qui se ressemble, ça semble. Hein.
Oui, il n'y a pas de hasard.
Non, il n'y a pas de hasard. Et donc, c'est lui qui a créé le site Internet. Moi, je me contentais d'écrire les articles. Et puis, il est aussi décédé, mort. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai utilisé d'autres procédés pour parler du cinéma.
Oui, et votre grande connaissance de tous ces films faisait que vous étiez sollicité pour l'édition de DVD. Vous faisiez l'accompagnement.
C'est ça, il y a eu les VHS que j'ai collectionné, puis ensuite les DVD que j'ai recollectionné. Et donc en 1978, comme on dit, j'ai créé donc mon fanzine Péplum, qui a vite changé de nom. Il est devenu Colossal, c'était le titre, avec un K, parce que je ne mettais plus de numéro dessus, ça m'embêtait quand on me disait « Ah, je voudrais... tel numéro, non, je n'en avais plus, quoi. C'était fait avec des petits moyens, hein. Je n'avais pas des tirages extraordinaires. Alors, donc, après ça, j'ai été contacté par toutes sortes de gens pour faire des bonus de DVD. Le tout premier, ça a été moi, Claude Empereur, mais j'en ai fait aussi pas mal pour Artus et pour d'autres. Éditeurs de DVD. Voilà.
Et donc, vous avez pénétré dans ce monde et vous étiez à la croisée de tout ce qui était l'antiquité imaginaire, comme dirait
oui.
Claude Aziza. Et vous avez vous êtes intéressé aux films, aux bandes dessinées, à tout ce qui entretenait cette histoire.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire?
Vous avez collectionné les photos, les affiches, tout ça. Vous étiez, vous teniez au courant de tout.
Mais Claude Aziza, justement, m'a un peu servi de mentor. Il m'a invité à tout, toutes sortes de manifestations en France, à Paris, à la Sorbonne. Et j'ai écrit toutes sortes d'articles sur Julien Laposta, sur Spartacus, sur tout ce qui me passait, tout ce qui me plaisait, tout ce qui me faisait de l'œil.
Et alors, voilà. Pendant tout ce temps-là, parce que vraiment, quand on voit tout ce que vous avez fait, oui. ça correspond à des heures et des heures et des jours et des années de travail inlassable.
Tout à fait. En fait, je ne faisais que ça. Hein. Quand je revenais du bureau, je me plongeais dans mes bouquins.
Oui, parce que c'était ça, votre vraie vie, et votre boulot à côté, c'était autre chose. Vous aviez deux mondes parallèles.
C'était pour faire bouillir la marmite, ça.
Oui.
Mais j'étais correcteur dans une maison d'édition, figurez-vous.
Ah, il y a quand même quelques rapports.
Oui, il y a toujours un bouquin quelque part chez moi.
Donc, ce site, vous continuez, et nos auditeurs vont se précipiter, j'imagine, pour aller voir ce que c'est, parce que c'est une mine de renseignements, surtout. Vous allez vous aborder tous les sujets.
Oui, sur mon site.
Oui.
Oui, j'ai abordé vraiment tous les sujets. Et j'étais très, très étonné de voir que j'avais écrit aussi sur des films pornographiques. En l'occurrence, la série Spartacus de chez Starz, qui comporte 3 saisons quand même.
Oui.
C'est assez leste. Je me suis dit, mais j'ai écrit ça, moi.
Oh, c'était pendant votre sommeil, sûrement. Hein.
Sûrement.
Donc ça veut dire qu'il y avait tout ce temps passé à lire et à voir les films, tout ce temps passé à trier la documentation et puis ensuite rédiger, quoi.
Et rédiger, oui. C'était ça, jamais. En fait, je crois que j'ai toujours aimé écrire. Avant même que je ne m'occupe des Argonautes, j'avais fantasmé d'écrire un bouquin un roman sur les guerres mythiques. Je n'ai pas été plus loin que le premier chapitre. Et ça ressemblait beaucoup à Peplum. C'était la scène dans une taverne là-bas où les gens se disputaient. Enfin, c'était le début de la guerre médicale. Non, je suis vraiment tombé dedans
quand vous étiez grand, en fait.
Comme Obélix.
Et alors, on arrive peu à peu, ça n'est pas si simple, mais on arrive peu à peu à Alix. Donc... Alix, quand est-ce que vous l'avez rencontré et quand est-ce que Jacques Martin est rentré dans votre vie?
Alors, Alix, je l'ai rencontré une première fois vers un peu après avoir lu les travaux d'Hercule, d'ailleurs. J'avais trouvé un bouquiniste et j'ai lu les 5 premiers Alix parus aux éditions du Lombard. Puis je crois que j'en suis dessaisi, je ne sais plus quoi. Et je les ai retrouvés en 1973 chez un libraire où je travaillais d'ailleurs. À ce moment-là, je n'étais pas encore correcteur. Et là, j'ai racheté toute la collection et j'ai commencé à la suivre. Et puis, comme je faisais un fanzine, je me suis dit, mais je devrais interviewer Jacques Martin.
Oui.
Puisque je lis ses albums, je les ai tous. Et en fait, bonheur, pur bonheur, j'aime bien les voisins, sauf ceux qui font du bruit.
Oui, de temps en temps, il y en a qui font du bruit, oui.
Mais il n'habitait pas, mais il tenait la boutique de sport nautique de sa fille.
Ah oui, alors j'ai appris ça grâce à vous, en effet, ça semble incroyable. Hein.
Oui. À l'entrée de la place Flagey, à l'entrée de la chaussée de Boundal, il y avait un magasin et Martin était là dans l'arrière-boutique en attendant le client. Et donc je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, j'ai fait ça, je ne sais plus en quelle année, en 78, non, plus tard. Je l'ai interviewé et puis bon, on en est resté là. Et tout à fait par hasard, j'ai appris, j'avais participé, c'était avec Claude Aziza d'ailleurs, j'avais participé à un colloque en Tunisie et j'avais communiqué sur les navires de l'Antiquité, toujours la mer, hein. J'aime beaucoup
oui.
La mer. J'avais communiqué là sur les navires tels qu'on les voyait au cinéma parce que c'était un colloque de cinéma, je crois. Et. Qu'allais-je dire
Et c'est
oui.
là qu'il il vous a sollicité pour faire un alix sur la navigation.
Tout à fait. En fait, j'avais un ami qui connaissait un dessinateur que Jacques Martin avait sollicité pour dessiner la marine antique. Et il a d'ailleurs abandonné, mais moi je lui avais dit que ne faites surtout pas, parce qu'on m'avait dit qu'il utilisait des DVD, des films, il dit ne recopiez surtout pas les galères qu'on voit au cinéma, elles ne sont pas authentiques. Alors bon, j'ai rencontré Jacques Martin, puis entre-temps le bonhomme s'est désisté, là, le dessinateur, et j'ai rencontré Marc Enitio, un autre collaborateur de Martin, qui lui a dessiné la marine antique, j'ai écrit les deux tomes.
Bon, bah, c'est déjà une sacrée entrée dans ce beau monde de la BD d'Alix. Nous allons, cher Michel, marquer une petite pause musicale avec un clin d'œil, puisque je n'ai pas trouvé de film qui parle d'Alix, mais de dessin animé. Donc, on va écouter un petit bout de cette bande musicale qui accompagnait ce dessin animé. Et tout de suite après, on se retrouvera pour parler de l'article, le dernier article que vous avez fait sur Alix et qui va paraître début 2026. À tout de suite.
Ça va, merci.
Alors, c'est la deuxième partie d'Antiquissimo, l'émission consacrée à Michel, Éloi et Alix. Michel, dont on découvre à quel point sa passion a complètement envahi, pour notre plus grand plaisir, sa vie. Et il est devenu péplonophile, bédéphile, zanzinophile. Et maintenant, il va vous parler d'un article colossal, parce que ça fait quand même une cinquantaine de pages, qu'il a écrit et qui va paraître dans une revue appelée Rocambole. Cette revue est une revue biannuelle dédiée à la littérature populaire et elle se vend en librairie. Donc, il faudra bien que vous guettiez début 2026 la parution de cette revue dans laquelle il y aura beaucoup d'articles, y compris celui-ci dont nous allons parler maintenant. Alors, vous avez parlé donc de ce sujet que vous connaissez très bien, on vient de l'entendre. Et vous avez, du reste, Alix, c'est un sujet dont on parle et pour vous, c'est un sujet, un vrai personnage. Et vous avez intitulé votre article « Alix, un voyageur spatio-temporel ». Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce titre ?
Eh bien, parce que quand on fait une bande dessinée, et surtout quand il y a plusieurs collaborateurs qui le font, on ne sait plus très bien, on essaye de trouver une bonne histoire et paf, on fait la BD. Mais on assiste parfois à des cafouillages. Hein. Je vais mettre un exemple ici. Il y a trois aventures qui se passent dans la même quinzaine de l'année 49. Trois aventures, la même quinzaine. Trois aventures d'Alix. Alors, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était un voyageur spatio-temporel.
Et oui.
Il pouvait être partout en même temps, n'importe quand. Donc, vous avez la dernière conquête qui se passe pendant la nuit du 11 au 12 janvier 49, à Léa et Acta Est. César a franchi le Rubicon. Puis, il y a une heure de Saturne qui se passe 8 jours après. César braque le temple de Saturne pour voler les réserves d'or qui s'y trouvent. Et une troisième histoire, César est quelque part dans les Alpes, puis il réintègre Rome, c'est la même période. Et Alix ne sait pas être dans trois histoires en même temps. Donc c'est un voyageur spatio-temporel.
Et, oui, et il n'y a que vous qui puissiez vous en rendre compte quand vous avez voulu faire, en prenant le recul sur tous les Alix, c'est là que vous êtes aperçu de cette nébuleuse.
Tout à fait. je m'en suis apercevra. Je m'en doutais déjà un peu hein, quand même, parce que bon, ce sont évidemment des scénaristes différents, des dessinateurs différents. Hein, il y a Mathieu Vreda qui a pour l'un, Pierre Valmour pour l'autre et Michel Lafon. Et c'est clair qu'ils ne se concertent pas entre eux, puis ils ont une bonne idée, ils la mettent en route. Ça leur met à peu près 2 ans pour faire une VD. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les alternent. Voilà, on se retrouve avec 3 fois la même histoire, enfin pas tout à fait la même, le scénario est différent, mais c'est là exactement la même période. Vous savez, un autre bel exemple, c'est Britannia.
Oui.
Britannia, scénarisé par Mathieu Breda et Marc Jailloux.
Oui, notre ami Marc Jailloux, oui.
Voilà. Et la conquête, la tentative d'envahir la Grande-Bretagne par César, c'était en septembre-novembre 1955, et parce qu'il y a eu une deuxième tentative à l'été 1954. Bon. Seulement, Martin Alix fait son apparition dans le monde de la BD deux ans après le désastre de la bataille de Carré en juin 1953. Donc, Alix arrive à se précéder dans le temps.
Oui, c'est fort. Hein?
Ça n'intéresse que les emmerdeurs comme moi. Moi, ça m'avait frappé. Je dis, mais enfin, il est copain comme cochon avec César. Et en réalité, il ne se connaissait absolument pas à ce moment-là. Si on se fie à
la rationalité de la chronologie.
À la chronologie. C'est de même, Alix, déjà dans les débuts de sa saga, aime beaucoup quitter le monde romain pour aller rentrer dans d'autres mondes. Hein. Attendez, voilà. L'Égypte dans le Sphinx d'Or, l'Égypte des pharaons, hein. Ça commence dans l'Égypte hellénistique, mais ça se continue dans un monde égyptien pharaonique, vais-je dire, qui est antérieur de plusieurs siècles, avec des personnages qui ont des costumes inappropriés de l'époque pharaonique. Ensuite, il retrouve Carthage avec des sacrifices homologues dans l'île maudite.
Oui.
Et puis il retrouve la Mésopotamie dans la pierre de Rival. Ça, c'était la période Martin. Parce qu'il y a eu 3 périodes dans l'œuvre. Pas dans l'œuvre de Martin.
Mais dans la biographie d'Alix. Alors, je vous coupe quelques minutes avant que vous nous racontiez ceci pour dire qu'effectivement, votre propos dans cet article, en quelque sorte, c'est de faire la biographie d'Alix.
La bio d'Alix, oui, tout à fait.
Et alors donc, c'est un travail colossal, je l'ai déjà annoncé, mais pour en témoigner, je dirais que vous avez pris soin pour tous les albums de les résumer, et c'est pas facile. Ensuite, non. De faire à chaque fois un petit commentaire sur quelque chose qui les caractérise ou une question que vous vous posez. Puis ensuite, vous montrez en effet les différentes parties de cette construction d'Alix avec un cycle épique. Et puis avec Jacques Martin, puis effectivement, il y a un moment où Jacques Martin ne dessine plus, puis ensuite, il y a un moment où Jacques Martin meurt.
Oui, il arrête de dessiner, mais il reste au scénario. Et donc, il a écrit et dessiné les 19 premiers albums.
Oui.
Il y en a 44. Hein.
Oui. Et c'est pas fini.
Il y a une espèce d'interlude entre 1987 et 1996, c'est comme ça qu'on dit.
Oui, nos auditeurs comprennent, hein, 96 quand même.
Mais je pense qu'il était en froid avec son éditeur, toujours est-il qu'il est pendant, c'est quand même une dizaine d'années, il a fait tout à fait autre chose, il a créé des maisons d'édition où il éditait un album, puis il changeait. Et puis il y a eu la deuxième partie de son œuvre, celle que j'appelle le temps des épigones,
oui.
Ce sont les successeurs, de l'album 20 à 28, hein, de 1996 à 2009. Il a fait sorte d'album qu'il a écrit, mais qui n'a pas dessiné.
Oui.
Et encore, les trois derniers, il avait juste fait des synopsis, il n'avait pas fait de scénario, avec François Mengoval et Patrick Weber, c'est un copain, ça. Patrick Weber, comme scénariste. Donc, de O, Alexandrie à la cité engloutie, il n'était plus dans le coup, enfin, il
oui.
ne dessinait plus.
Voilà.
Et alors, il y a eu la troisième période.
Et voilà, on arrive à la troisième période et à la fin de l'émission, donc on va aller assez vite pour le dire. Troisième période.
La troisième période, c'est le temps des diadoques. Ce sont les successeurs des successeurs.
Oui, et là, il fonctionne souvent par deux, donc un dessinateur et un scénariste. Et vous expliquez tout ça très bien. Mais je vous remercie infiniment, Michel. Et lorsque ce sera le moment, on rappellera aux auditeurs qu'il faut aller acheter cette revue et dévorer votre article qui est aussi érudit que vivant et passionnant. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir, Martine.
Au revoir. Alors, pour clore cet entretien avec Michel Éloi, j'ai envie de vous lire un petit texte qu'il a écrit sur tout ce qui conduit sa vie, c'est-à-dire entre fiction et histoire, entre cinéma, BD, réalité historique et écriture. Voilà ce qu'il écrit. « En instable équilibre entre histoire et fiction, j'ai conscience de la délicate situation qui est la mienne. » Quand je vois un film traitant d'un sujet que je ne connaissais pas, découvrant par la suite des inexactitudes, des anachronismes, je me sens frustrée, flouée. Mais certes, je comprends que les scénaristes dans un film de 120 minutes doivent simplifier, raccourcir, limiter le nombre de personnages en attribuant à celui-ci ce qu'a dit celui-là. En revanche, si le sujet m'est très familier, je m'amuse beaucoup des libertés prises par les auteurs du film, même les plus lourds pensifs, la quadrature du cercle. Contradiction ? Peut-être. Mais j'aime mieux parler de paradoxe. Le péplum parfait est impossible et je le sais. Toutefois, si le cinéma donne envie à un spectateur en état de grâce d'aller voir plus loin, d'ouvrir des bouquins, j'en serais ravie. Mais je persiste à penser qu'un film historique doit avoir aussi une mission éducative. Le plus souvent, le spectateur lambda n'ira pas voir plus loin et prendra pour argent comptant tout ce qu'il a vu sur la toile ou lu dans une BD, dans un roman historique. J'arrête ici tout ce que Michel Éloi pourrait nous confier de son expérience, de celui qui se passionne pour l'Antiquité et qui la restitue pour les autres. Je vous incite simplement à aller voir sur son site qui est magnifique, Péplum. Michel Éloi, Péplum. Au revoir.